Rebonjour tout le monde et bienvenue au podcast SPI. Mon nom est Amélie Leduc, je suis conseillère marketing chez SPI Santé et Sécurité. Si vous avez manqué la première partie de notre podcast sur la détection des gaz et sur le capteur PID, sachez que celui-ci est disponible en ligne sur notre site web www.spi-s.com. L'épisode d'aujourd'hui est en fait la suite de notre discussion, de notre première discussion sur le sujet. Alors, encore aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Stéphane Labrie, conseiller formateur chez SPI, et de Michel Mondou, gérant régional des ventes Québec-Ouest-Ontario-Est chez Dräger Safety Canada. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Amélie.
Donc, durant la première partie du podcast, nous avons discuté là, du capteur de gaz PID et comment il était différent des autres capteurs. On dit aujourd'hui que le capteur PID n'est pas spécifique à un gaz en particulier, puisque chaque gaz qui entre dans le capteur PID et qui possède un potentiel d'ionisation plus faible que la lampe sera détecté. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est vrai?
Oui, mais c'est bien ce que vous dites là. C'est vraiment vrai. Mais c'est un concept important à comprendre et à être capable de savoir qu'est-ce que cela veut dire. Le capteur PID lui-même ne peut pas mesurer sélectivement une substance ou un gaz en particulier. Et si exposé à une multitude de gaz présents dans l'air avec des énergies d'ionisation plus faibles que celles de la lampe, comme vous avez mentionné, il va donner une lecture sommaire ou un somme de les concentrations de ces divers gaz-là. Ça, c'est dû à les sensibilisations qu'il y a croisées entre un gaz et l'autre. Okay. Et c'est une affaire du PID sensor qui donne ça. C'est ce qui arrive, mais il y a des manières qu'on peut ajuster ça. Donc, comme les autres capteurs, le capteur PID peut être calibré avec le gaz ciblé qu'on veut mesurer. Exemple, le isobutylène ou le stéarine ou le benzène sont des exemples. Si seulement le gaz à mesurer est présent dans l'air, c'est certain que le capteur va vous donner une lecture précise de ce gaz-là. Si par chance, dans ton air, le gaz ciblé que vous voulez est présent et il y a d'autres gaz dans l'air aussi ou dans l'échantillon d'air qu'on veut prendre, il va vous donner une mesure d'une addition des lectures. Ce ne sera pas exactement un pour un, mais ça va être une addition des lectures. Donc, vous n'avez pas une lecture véritable, mais comme Stéphane avait mentionné dans le premier podcast, au moins vous avez une idée de la toxicité niveau de les gaz qui sont dans votre atmosphère. Tu ne sais pas lequel, mais au moins vous savez que vous êtes dans une atmosphère qui serait peut-être toxique.
OK.
Une problématique qu'on rencontre sur le terrain lors de la détection des gaz, c'est l'impact de l'humidité sur le résultat. On sait que quand il y a des milieux plus humides que d'autres, ça peut avoir une influence sur le résultat. Ça peut sous-estimer ou surestimer le potentiel de danger. Est-ce qu'il existe quelque chose, quand on parle de cellules PID, est-ce qu'il existe quelque chose pour minimiser cette influence de l'humidité sur les cellules ou sur les capteurs?
Oui, comme on le sait, Stéphane, l'environnement, on n'a pas beaucoup de contrôle sur les conditions de l'environnement ou que nous devons prendre des mesures. Donc, on peut être dans une mine, on peut être à l'extérieur, dehors, on peut être dans un environnement où il y a un feu, on peut même être sur un bateau qui est différent dans l'océan. Donc oui, c'est certain qu'on ne peut pas contrôler l'humidité qu'il y a dans l'air, qu'est-ce qu'il y a dans l'air, mais qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est développer des outils ou des méthodes de travail pour réduire ou minimiser l'effet d'humidité. Ça tombe bien parce qu'une des méthodes pour réduire l'effet d'humidité et la précision de la lecture qu'on va obtenir sur le nouveau XAM 8000, détecteur XAM 8000, avec le capteur PID, nous avons ce que nous appelons un pré-filtre pour l'humidité. Donc, le pré-filtre pour l'humidité est utilisé pour enlever l'humidité dans l'échantillonnage de l'air ou du gaz qu'on veut mesurer. Et donc, on va avoir vraiment une lecture précise sans l'effet d'humidité qui va arriver, que vous allez obtenir sur votre lecteur.
Intéressant.
Michel, on dit qu'il y a énormément d'éléments à prendre en considération là, quand on utilise ce capteur PID-là en particulier. Est-ce qu'il y a des outils ou des supports disponibles pour simplifier peut-être le processus?
Bon, première chose qu'on devrait mentionner, c'est qu'une formation est clé pour assurer que l'opérateur comprend bien ce qu'il fait et interprète par les données qu'il voit. Donc, c'est bien beau d'avoir toutes sortes de programmes qui peuvent vous aider, mais une formation est très importante. Cela peut être donné par vos techniciens ici à SPI. Donc, pour faciliter aussi ceci, notre nouveau détecteur multigaz, dans son menu, a un guide d'assistance pour prendre des lectures et un autre guide d'assistance qu'on appelle Wizard. Donc, ça, c'est des fonctions qui sont accessibles le détecteur XAM 8000 et qui va vous donner un exemple que si vous mettez le pré-filtre d'humidité, exemple, en allant chercher le wizard, il va vous donner comment installer la pompe, comment mettre le pré-filtre, le tube de pré-filtre, comment activer le détecteur sur les incans d'instruction, les étapes pour attacher le pré-filtre et performer des tests de fuite. Tout était fait sur les... Donc, oui, tout ça là, écrit bien clairement en étapes, des étapes précises, faites par... qui va vous donner là, l'écran ou le détecteur 8000.
Okay.
En plus, il va afficher les mesures de lecture courante et aussi la lecture maximale qu'on a eue durant cette période-là qu'on a faite ou qu'on a utilisé cette fonction-là. Pour ajouter, on parlait de pré-fit pour l'humidité et dans le podcast, Stéphane avait mentionné, on parlait du benzine dans le carburant pour les avions. Mais ça tombe bien parce que le benzine étant une substance qui est carcérogène.
Oui.
On a trouvé une manière d'être capable d'ajouter un filtre, un pré-filtre, sur l'exam 8000 pour enlever les autres gaz qui pourraient contaminer et avoir une lecture précisément juste pour le benzine.
Okay.
Donc, on parle de différentes méthodes, puis être plus précis. On est toujours en développement de méthodes pour éliminer des effets des gaz croisants ou les effets d'humidité.
C'est le fun d'avoir des menus, des applications, des outils qui nous permettent un petit peu de savoir comment ça fonctionne, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise de consulter ce genre de menu-là. C'est là où la formation rentre en ligne de compte, ça peut être très pertinent d'avoir ça. Donc, il y a plusieurs formations qui sont offertes pour s'assurer que la détection vienne pas représenter un danger, c'est-à-dire qu'on se fie à notre détecteur de gaz. Bien, c'est important de comprendre qu'est-ce que le détecteur de gaz nous dit. Il y a une école de pensée qui veut que quand un détecteur sonne, c'est parce qu'il s'est temps d'évacuer, mais on sait très bien qu'un détecteur pourrait ne pas être encore en train de sonner, puis ça pourrait représenter un certain danger. Bien, tout ça, il n'y a pas de meilleur moyen que la formation pour avoir ce bagage-là nécessaire là, pour bien comprendre puis bien utiliser un détecteur de gaz. Chez SPI, bien, on donne différents forfaits, différents formats de formation. Ça peut être des 2 heures, des 4 heures, des 7 heures. Selon le besoin de la clientèle, on va s'adapter puis on va leur donner selon leurs besoins.
Super intéressant. D'ailleurs, si vous aimeriez rencontrer ou même parler avec un représentant en détection des gaz, je vous invite à communiquer avec nous par téléphone au 1-855-420-2080 ou encore par courriel au marketing@spi-s.com. Merci Stéphane, merci Michel d'avoir partagé votre expertise. C'était très intéressant. Évidemment, ce podcast-là qu'on fait aujourd'hui ainsi que la première session sont disponibles sur notre site web au www.spi-s.com. Alors, j'espère que vous avez apprécié notre podcast et comme toujours, on aime recevoir vos commentaires, vos suggestions. On vous invite à nous les envoyer par courriel ainsi que tout sujet qui pourrait être d'intérêt pour vous et que vous aimeriez qu'on élabore lors d'un autre podcast. Alors, encore une fois, merci à tous pour votre écoute et soyez prudents.